Saison en librairie, l'émission qui va à la rencontre des passeurs de livres, animée par Louise Lefaux, tous les lundis de 17h à 18h, rediffusion les mardis à 11h sur Radio Montpellier.
Pour ce quatrième épisode d'une saison en librairie, nous quittons le centre-ville de Toulouse pour l'Union, située au nord-est de l'agglomération toulousaine. C'est une ville de 12 000 habitants, où a ouvert en ce début d'année une nouvelle librairie, Les Passantes. Alors merci Stéphanie et Karine de m'accueillir dans votre lieu. C'est quand même super chouette parce qu'on entend des librairies qui ferment les unes après les autres. Souvent, c'est les loyers de centre-ville qui sont de plus en plus élevés et qui sont la cause de la fermeture de ces librairies. Quand une librairie ouvre, c'est un événement. Alors, c'est aussi un acte militant et un projet passionné et passionnant.
Oui, passionnant, oui. C'est la fête.
Alors, racontez-nous ce projet de départ. Comment il a éclos, ce projet ?
Il a éclos au cours de notre formation en librairie, puisqu'on a suivi toutes les deux la licence professionnelle en librairie. Donc, on avait commencé les cours en septembre, et puis une première session de stage en fin octobre. Donc, pour moi, c'était une reconversion. Donc, ça a vraiment confirmé complètement la reconversion. Et ensuite, autant au niveau du cours, mais surtout au niveau du stage. Et assez vite, en fait, au bout de quelques mois, je me suis dit c'est vraiment là que je voulais être. Mais que ce soit mon projet. Ouais, pas tellement envie de travailler pour un livre dans une librairie. J'ai commencé à réfléchir. Oui. Si jamais.
C'était assez drôle d'ailleurs parce qu'elle m'a proposé ça en cours entre nos interventions à la pause. Et elle m'a dit si j'arrive à monter ma librairie, elle m'en avait déjà parlé un petit peu, je t'embauche. Et moi j'avais pris ça complètement à la légère en fait. Elle m'en avait pas reparlé pendant un bon moment. Et quand elle a vraiment commencé à formaliser le truc, c'était, enfin pour elle c'était vraiment acquis. C'est assez drôle. Et puis pour moi du coup très vite aussi. De venir travailler avec elle et de monter ce projet.
Et donc du coup la librairie elle a ouvert le 16 février 2016. Et comment ça s'est passé, le choix de la ville de l'Union, etc. J'imagine que vous avez fait tout ce qui est des produits prévisionnels, études de marché.
Oui, l'étude de marché, mais en fait il faut soi-même, c'était une évidence et assez vite arrivé. Enfin, moi j'habite sur l'Ouest Toulousain, mais sur l'Ouest Toulousain, bon, c'est déjà là. Voilà, évidemment, il y a ce qu'il faut. Et les quartiers de Toulouse, alors on avait un quartier en qui était minime, d'ailleurs ça aurait pu se faire là, puisqu'on avait local nous, ça aurait été un projet différent. Manifestement, sur l'Est Toulousain, tout l'Est, toute la couronne nord et est, il n'y avait rien. Alors, on est des grandes surfaces culturelles, mais on n'est pas sur les mêmes. Je me suis dit, c'est là qu'il faut s'installer. C'est vraiment dans l'idée d'occuper un territoire. C'est pas installer à l'Union, mais c'est pas que l'Union, c'est vraiment le nord et le nord-est, et tous les gens. Qui vivent ici, et un lieu culturel à proximité, ne soit pas obligé d'aller en ville. Ils continuent à le faire, j'imagine.
Oui, mais c'était pour poser quelque chose ici, quand même.
Voilà, et oui, mais ancré sur un territoire. Ça aurait pu être une reprise, mais moi, j'étais pas très mobile, donc il y avait des reprises un peu partout en Midi-Pyrénées, mais pour moi, il fallait que ce soit sur la couronne.
Ouais.
Donc il n'y avait rien, il n'y avait pas de projet à reprendre, donc c'était de fait une création.
D'accord. Et donc, du coup, on va parler livres aujourd'hui, mais on va aussi parler économie. Pour monter une librairie, du coup, vous avez demandé le soutien des institutions, des acteurs économiques. Comment ça se passe ? Il y a des subventions ?
Il peut y avoir des subventions. Moi, j'avais un petit pécule et j'ai préféré être un peu indépendante par rapport à ça. Par contre, maintenant, voilà, on aimerait avoir des subventions par rapport aux investissements qui ont été faits. On peut en avoir encore maintenant, mais pour démarrer, en fait, je me suis débrouillée parce qu'au niveau régional, les aides sont plutôt pour la reprise et pas pour la création, donc on ne rentrait pas trop dans les cadres. Après, à titre personnel, j'étais pas demandeur d'emploi, donc, puisque j'étais en disponibilité, enfin en congé de la fonction publique. Donc quand on est demandeur d'emploi, on a effectivement accès à pas mal de dispositifs auxquels j'avais pas du tout accès. Donc voilà, ça a été monté vraiment.
Et puis il y a tellement de choses à faire en fait pour une ouverture, la préparation, les stocks, le mobilier, les travaux, enfin il y a l'administratif, etc. que finalement cette part-là on l'a laissée un peu de côté pour plus tard en fait.
Oui, demander, oui.
Voilà. Monter les dossiers, c'est très fastidieux.
Oui, il y a le dossier du label LIRE aussi, oui. Label de référence.
Oui, il faut
référence.
Avoir deux ans donc là
voilà,
on
donc
le
faut
demandera, mais là voilà, on va essayer d'avoir des aides régionales par rapport aux investissements qui ont été faits, on espère que...
Et le choix du local, du coup, vous l'avez trouvé rapidement à l'Union ?
Alors, j'avais commencé à chercher en avril et l'Union, je l'ai visité au mois de novembre. En fait, c'est, oui, c'est assez rapide.
Oui, c'est rapide.
Des locaux, on aurait pu en trouver d'autres, mais les loyers sont très très chers, donc voilà, il faut tourner un peu. C'est une grosse contrainte pour la librairie, parce qu'on n'est pas, on dégage pas... des marges assez conséquentes pour payer des gros loyers. Donc il y a beaucoup de locaux qui sont inaccessibles. Voilà.
D'accord. Donc, et du coup pour ce projet, la ligne éditoriale, on va dire un peu de ce projet, qu'est-ce que vous proposez ? C'est une librairie indépendante généraliste.
Voilà. Donc là, généraliste était vraiment le premier point. On voulait un fonds qui nous ressemble, qui nous plaise, un fonds qui soit de qualité, mais on sait qu'on est aussi sur un territoire où il n'y a pas d'offres, donc avec un accès aussi aux nouveautés, avec un bon rayon jeunesse, puisque Stéphanie, c'est son
oui,
truc.
On voulait quelque chose assez hétéroclite, en fait, et assez large, une offre assez large pour ne pas laisser les gens à la porte, en fait. Voilà, qu'ils se sentent bienvenus, même s'ils ne lisent pas de la grande littérature ou des choses un peu rares, mais qu'on puisse aussi accueillir les gens qui cherchent des choses un peu plus pointues, un peu plus exigeantes.
Donc tout type de livres pour tout le monde.
Oui.
Et puis des livres du fond.
Oui.
Des nouveautés.
Oui.
Et du coup, tous les rayons. Là, vous brassez à peu près tous les rayons.
Oui, oui, quasiment, oui.
Tous les rayons, hors le parascolaire.
Oui, le scolaire, le parascolaire.
On a 70 mètres carrés.
Ouais.
On a un plateau de 70 mètres carrés, donc voilà, qui est bien rempli, mais qui peut y a encore de,
la
on
place.
Espère, y a encore de la place, il y a encore moyen de faire entrer du fond. Mais on a essayé, oui, d'avoir tous les rayons.
Oui, on fait la part belle à la littérature, mais voilà, on a des sciences humaines, on a un peu de pratique, de la jeunesse, de la BD, donc il y a moyen de.
De la BD, des mangas aussi.
Des mangas aussi, oui, oui. Du comics, c'est pas forcément les choses qui sont les plus présentes dans les petites librairies.
Des sciences humaines, voilà, qui. C'est important d'avoir ces rayons, ils sont à l'entrée, voilà, ils sont bien.
Des livres de voyage que vous avez mis, d'ailleurs, j'ai vu dans des petites valises.
Oui.
Là, vous avez... Non, dans les valises, c'est des
ce
livres
pas des...
de littérature,
c'est la littérature
étrangère.
Voilà.
Oui,
pour voyager.
Inviter les gens un petit peu à découvrir des auteurs étrangers.
Donc il y a l'Inde, l'Irlande, le Venezuela, le Chili, les États-Unis.
L'Iran.
Voilà.
Il y a des voyages à faire.
Bah oui, bien sûr. On peut, avec les livres, c'est ça qui est bien. On peut voyager sans sortir de chez soi, finalement.
On peut avoir toutes les vies qu'on veut.
Et voilà, c'est ça. vous avez donc ouvert la librairie en février de cette année. On va décrire un peu ce nouveau lieu. Donc vous m'avez dit une superficie de...
Alors, 70 mètres carrés, donc dédié entièrement aux livres. Et on a la chance d'avoir un sous-sol de 60 mètres carrés environ. Donc, où on peut stocker le bazar, avoir un petit espace de vie pour nous. Mais on peut aussi recevoir, donc si on fait une animation pendant les horaires d'ouverture, ça c'est très très pratique. On peut faire du coup des ateliers le samedi après-midi, il va y en avoir à la rentrée. On peut s'installer en bas, c'est quand même éclairé. Donc,
voilà. Oui, puis il y a de l'espace.
Ouais, ouais, l'espace. Donc en tout, on a 130 mètres carrés, on exploite entre guillemets que 70 mètres carrés, mais ça nous permet en haut de tout dédier aux livres.
Et du coup, pour les auditeurs, quand même, expliquons un peu où est-ce qu'on est dans l'Union, où est-ce qu'elle se trouve, cette librairie des passantes.
On est en fait dans une réunion de plusieurs petits centres commerciaux qui sont à ciel ouvert, c'est pas une galerie marchande, mais qui est excentrée par rapport au petit centre-ville de l'Union, puisque l'Union, en fait, il n'y a pas exactement une ville historique, centre-ville, etc. C'est des petits hameaux, des petits villages qui ont été regroupés un peu artificiellement, en une seule commune, mais du coup, voilà, il y a plusieurs centres. Et finalement, cette réunion de centre culturel, c'est un peu là où tout le monde vient faire ses courses. Donc il y a de l'animation, il y a du passage, et des gens qui viennent de l'Union même, mais aussi des alentours, des villages alentours.
C'est structuré autour d'un axe, c'est une route qui dessert tous les villages en suivant. Donc les commerces sont de part et d'autre de cet axe, qui coupe la ville en deux. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'Union travaille, la nouvelle municipalité qui arrive en 2014, travaille à créer un vrai cœur de village, parce qu'il n'y en a pas actuellement. Là où il y a les services comme la poste, la mairie, il n'y a rien autour. Donc ils ont quand même un cinéma, une salle de spectacle, il y a des choses à faire vivre.
Des associations, voilà. Beaucoup d'associations.
Donc il y a un projet qu'ils ont appelé Cœur de Ville, voilà, pour recentrer un peu les choses. Donc cet axe, bon, il reste très très commerçant, mais ça a peut-être évolué. Après, pour nous, c'est peut-être une option peut-être un jour de déménager et d'aller plus vers ce nouveau cœur de ville.
Et oui. Donc moi, j'arrive de Toulouse, là, de la rue de la Colombette. J'ai mis 15 minutes, montre en main, pour arriver jusqu'ici. Parce que du coup, quand on sort du périph, on est tout de suite... On arrive tout de suite à l'Union on est un peu avant le centre-ville quand on arrive sur cet axe couronne, principal.
Bon, on a même des gens qui viennent du quartier Croix-d'Orane parce qu'en fait...
c'est direct.
Alors ils ont 5 minutes en voiture et surtout ici il y a beaucoup de places de parking. Ça a été, c'est la voiture reine, hein, c'est des centres commerciaux et des parkings. Donc c'est les quartiers Croix-d'Orane, ils peuvent facilement venir ici.
Et donc, par rapport au nombre de références, parce que quand on ouvre une librairie comme ça, il nous faut un fonds, il nous faut du stock, quoi. Oui. Et du coup, vous avez combien à peu près de références, là, depuis février?
On a ouvert autour de 4000 références pour l'ouverture.
Ouais. Et là, on est dans les 6000. Hein.
Ouais. On a bien, monté le stock.
Le fond, peut-être un peu trop. Ouais. Voilà, donc on est à peu près dans les 6000 références.
Ouais. D'accord, et du coup, on a déjà parlé des rayons. Est-ce que vous avez des secteurs que vous voulez développer dans le futur, parce que là c'est tout jeune, c'est tout récent, du coup vous allez peut-être un peu tester ce qui marche, ce qui marche pas auprès de vos clients. On va parler de votre public aussi.
Oui, la clientèle, on la découvre, ça fait 5 mois, donc on voit un petit peu quelles sont les attentes, les rayons qui marchent, développer, je sais pas, plus de littérature peut-être.
Oui, je pense que c'est le rayon à développer,
jeunesse,
ce sera la littérature, la jeunesse. Et après, il y a certains rayons où on attend en fait que les gens arrivent pour...
La BD, c'est un peu compliqué.
Oui, la BD, pour le moment, c'est un peu en stand-by, le manga aussi. Mais c'est des rayons qu'on ne veut pas abandonner. Donc,
répondre à la demande et en même temps proposer une offre.
C'est ça, faire découvrir des choses. Et puis le jour où la clientèle va venir un petit peu, avoir quand même des choses à proposer. Et puis les sciences humaines, je pense qu'on a... on va dire un strict minimum, on essaye de faire des choses de qualité, mais peut-être développer ça aussi pour vraiment remplir une mission culturelle, quoi.
Et du coup, bon, voilà, comment a été l'accueil des gens de la ville, le public alentour, les lecteurs,
là ? Très enthousiaste, oui. Les gens vraiment sont ravis d'avoir une librairie. Souvent, ça manquait, il n'y avait rien.
Ils le manifestent beaucoup, ils sont très réceptifs.
Ils nous font beaucoup de publicité.
Bouche à oreille.
Après, ce sont les lecteurs, ceux qu'on voit, ceux qui ont de l'enthousiasme pour la... pour le livre et pour la librairie, pour les lieux. Donc voilà, on nous fait des compliments sur le lieu, sur le fond, donc ça c'est plutôt positif. Après, il faut énormément de temps avant d'être repéré. Donc je pense que pour les gens qui sont moins sensibles, ça c'est, voilà, c'est un public qu'on ne touche pas encore.
Ça viendra plus tard.
Un peu grand public, ben, qui... ils ont un Leclerc avec un centre culturel là, pas loin, il y a un Cultura, donc il y a certainement des habitudes là qui vont être un peu plus longues à changer. Mais
tout le monde est le bienvenu à la librairie, les passants.
Oui, parce qu'on a, on a effectivement, on ne peut pas tout avoir. On peut par contre presque tout commander, donc les gens qui veulent venir seront très bien reçus.
Vous avez déjà des clients habitués?
Oui.
Oui. On a déjà des gens
qui reviennent.
Pendant les deux premiers mois, ils sont déjà revenus de nombreuses fois, qui commandent beaucoup aussi ce qu'on n'a pas. Ils ont tout de suite été réceptifs à ça. Ils n'ont pas dit bah, j'irai l'acheter ailleurs, ou voilà, les gens nous commandent les choses qu'ils veulent, nous appellent, nous envoient des mails. Donc ils ont vraiment déjà une certaine partie à adopter les passantes comme étant leur librairie de référence.
Super. Vous avez une carte fidélité?
Oui. Quand on la demande, elle n'est pas matérialisée. Hein, c'est via l'ordinateur. Donc effectivement, on peut proposer la fidélité.
Et du coup, on va parler de vos parcours respectifs. Alors toi, Karine, du coup, tu parlais d'une reconversion. Donc alors, qu'est-ce que tu as fait alors dans ta vie avant d'arriver, avant de devenir libraire?
j'ai travaillé un peu dans l'édition, un peu dans l'édition pour un labo pharmaceutique. Donc c'était c'est le seul moyen de raccrocher un petit peu. Non, en fait, j'étais dans la fonction publique. Moi, j'ai travaillé dans les établissements scolaires, dans la partie intendance. Donc voilà. Et puis les derniers temps, je travaillais pour l'université Jean Jaurès, ex-Mirail, les trois dernières années. Mais j'ai beaucoup travaillé en lycée, notamment avec les documentalistes. Donc bon, comme j'étais une grosse lectrice, j'ai toujours cherché à rester en contact avec le milieu culturel, en fait. Hein. Je participais au concours des lycéens, enfin voilà, on animait des choses. Voilà. Et puis un jour, j'en ai eu marre, en fait. J'avais fait le tour de tous les postes qui pouvaient se présenter. Et je me suis dit, où est-ce que j'aimerais être? Qu'est-ce que j'aimerais faire? Et voilà, je pensais à la librairie. Et je suis allée voir la librairie de l'Université Jean Jaurès. Donc c'est... Mince, j'ai un doute. Je ne me souviens plus du nom. Comment elle s'appelle? La librairie...
Études.
La librairie études.
Je ne connais pas.
J'ai rencontré Sylvie. Et qui m'a dit, oulala, personne ne vous embauchera si vous n'êtes pas formé. Il faut d'abord avoir un diplôme de libraire. Bon, d'accord. Et donc, coup de bol, l'université du Jean Jaurès démarrait la licence. Donc, j'ai candidaté et puis j'ai été retenue. Et donc, je me suis retrouvée début septembre 2014 avec 12 autres étudiants. Bon, j'étais la mamie du groupe. et voilà. Et donc, comme je disais tout à l'heure, voilà, pour moi, la reconversion a été vraiment évidente. Enfin, très, très vite, je me dis, oui, mais c'est vraiment ça. Je ne me suis pas trompée. Et il n'était pas question de revenir au bureau.
D'accord. Et donc, du coup, ça a marché puisque, du coup, voilà, ce projet de librairie... est arrivé vite.
Oui. Bah, il est arrivé certainement aussi parce que j'avais derrière une expérience et une solidité dans la gestion, dans le fait de s'atteler aux choses, d'être persévérant, voilà. Finalement tout mon parcours, bien sûr, ça sert toujours et ça a certainement aidé.
Et oui, parce que libraire, du coup, c'est les mots, c'est les lettres, mais il faut être un bon gestionnaire pour être un bon libraire. Il y a ça aussi. Et donc, toi, Stéphanie, ton parcours, du coup ?
Alors, mon parcours, il est un peu chaotique, le mien. À la base, j'étais partie pour faire des études de psycho. J'ai continué jusqu'à une licence et j'avais commencé une maîtrise que j'ai pas terminée. Et puis, finalement, ça me convenait pas vraiment. J'ai arrêté et je me suis dit, tiens, comme j'aime lire, je vais aller travailler en librairie. Et en fait, comme le disait Karine, effectivement, quand on n'a ni expérience ni diplôme, les libraires, ils ne sont pas du tout accueillants de ce point de vue-là. Et donc, j'ai commencé à chercher dans des structures plus larges, type Cultura, la FNAC, etc., pour commencer à me faire une petite expérience. Et en fait, j'avais trouvé un poste dans une FNAC Éveil et Jeux. Donc, magasin de jouets et un peu de livres. Donc, j'ai travaillé quelques années là. Et puis, en 2011, il y a une FNAC qui a ouverte à Portée-sur-Garonne, dans la galerie marchande de Carrefour-la-Bèche. Et j'ai été embauchée au rayon jeunesse. Donc, je me suis en fait encore plus spécialisée dans la jeunesse. rayon que j'ai tenu pendant presque 3 ans. Et la FNAC, malheureusement, a fermé. Donc ça ne marchait pas du tout. Et en fait, j'ai eu la chance d'avoir une année tout frais payée par la FNAC grâce au plan social et d'avoir cette licence professionnelle qui s'ouvrait sur la région, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Donc les deux choses ont bien concordé et je me suis dit, à y être, je vais valider un diplôme. J'ai un peu d'expérience dans la vente, dans le livre, et après j'aurai un diplôme et je serai un peu plus solide sur le marché du travail. Ce qui a porté ses fruits, puisque effectivement d'abord j'ai rencontré Karine. On avait commencé à parler et à monter le projet, et puis comme on ne savait pas le temps que ça allait prendre, j'ai réussi à très vite trouver du travail chez Priva.
Dans
le centre-ville de Toulouse, voilà, rue des Arts. Grosse librairie qui est redevenue indépendante depuis 2-3 ans et qui renaît de ses cendres. Et voilà, j'ai travaillé 5 mois et puis quand ça s'est concrétisé pour ici... Je suis arrivée.
C'est pas pareil de travailler dans une FNAC que dans une librairie indépendante.
Non, c'est pas pareil du tout. C'est deux expériences complètement différentes, mais que je trouve, moi, complémentaires parce que, effectivement, quand j'étais à la FNAC, j'avais pas l'expérience de tout ce qui est vraiment achat de livres, puisque beaucoup de choses sont centralisées. Il n'y avait pas le travail avec les reprêts. Il y a un travail, on va dire, en qualité moindre. Par contre, on apprend à être hyper organisé, à abattre en fait du travail tout simplement, à vraiment être dans l'action tout le temps, à avoir des idées, à réagir vite, à trouver des solutions. Et finalement, ces années-là, dans la vente purement, et puis après à la FNAC, m'ont aidé à avoir une certaine façon de faire qui est efficace. Il y a une question d'efficacité que j'ai acquise, que je pense que je n'aurais pas forcément acquis en librairie indépendante. J'ai acquis d'autres choses. Et puis j'ai eu la chance l'année dernière de faire mon stage de licence à Terra Nova, où là, par contre, effectivement, le choc entre l'expérience de la FNAC et l'expérience à Terra Nova, c'est un grand écart incroyable, mais qui a été d'une richesse incroyable aussi. En fait, je travaille avec une super équipe dans une super librairie et j'ai vraiment appris beaucoup de choses. Le stage a été très, très pédagogique.
Ouais. Et du coup, bon, ben voilà, avec vos parcours différents, vous montez ce projet toutes les deux. Et du coup, quels sont les projets à venir par rapport à cette librairie? Quelles sont vos envies dans l'immédiat, enfin dans les prochains mois?
J'irais déjà être pérenne, c'est
pérenniser, oui.
Rien n'est gagné au bout de 5 mois, loin de là. Donc c'est quand même des coups de chaud hein, encore. Donc voilà, ça c'est le premier objectif, tenir, rester. Et ensuite se développer, on a de la place. Donc voilà, accueillir encore plus de monde. Et surtout, voilà, beaucoup d'animation. On a un calendrier bien chargé pour la rentrée, ça c'est très très bien. Voilà, et continuer, pour l'instant c'est vraiment un plaisir de chaque jour, donc continuer à être bien, voilà, et à accueillir les gens, je crois qu'ils sont très sensibles, enfin, moi aussi par rapport à mon parcours de stage, c'était vraiment, on était l'idée d'un lieu où il y ait beaucoup d'empathie sur un accueil, où que ça soit joli, qu'on se sente bien, parce que c'est pas toujours le cas, je trouve des fois en librairie, donc voilà, continuer... dans cet esprit et voir en fait les gens venir, revenir et d'autres gens venir, voilà, et travailler bien travailler avec les associations locales, les bibliothèques, on a déjà commencé à tisser un réseau, ça c'est très important d'être
et oui, créer du lien,
oui,
quand
créer
on est
du lien, oui
sur un territoire avec les associations
là,
etc.
Il faut qu'on se rapproche du cinéma, il y a beaucoup de choses à faire et ça c'est vraiment très intéressant.
On va parler des animations à venir et puis aussi des livres qui vous tiennent à cœur en troisième partie, mais d'abord... Thank you. êtes à l'écoute d'une saison en librairie et nous sommes à la librairie Les Passantes à l'Union. Alors, du coup, c'est une nouvelle librairie et on va parler quand même d'animation. Vous avez reçu des auteurs déjà, vous avez organisé des choses. Je sais que ce soir, vous avez un événement aussi.
Oui, petit événement. Alors, on a eu 3 rencontres auteurs, là, en 5 mois, plus la rencontre pour le Marathon des mots que j'ai animée, hors les murs de la librairie. Il y avait 50 personnes, donc on n'aurait pas pu rentrer tout le monde. Donc les 3 rencontres, ça s'est très très bien passé, ouais. C'était très intéressant.
Vous avez reçu qui ?
Alors d'abord une auteure d'origine rwandaise qui a écrit un livre sur le génocide, elle vit à Bordeaux. Donc voilà, c'est une de nos clientes en fait, qui nous, ouais. En parlant littérature, elle avait vu qu'on avait le Mukasonga, elle m'a dit moi je suis rwandaise, je connais, et elle a dit voilà, je connais une dame qui vient d'écrire un livre. Elle était passée la veille à Terra Nova, et donc l'après-midi, le samedi, elle est venue ici, donc ça c'était... super rencontre.
Ouais, avec un bon réseau, donc on a eu du monde, c'était très 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 chouette d'avoir du monde comme ça pour une première rencontre aussi, peut-être difficile aussi d'accès, parce que c'est pas un récit
un
facile
sujet,
à entendre,
ouais.
un sujet facile.
La deuxième, c'était sur la résistance, puisqu'il y avait une manifestation à l'Union dans le fin mai, pour la journée nationale d'hommage à la résistance, donc on s'est entendu avec la mairie, en fait, on a reçu un auteur qui était venu faire une conférence, voilà. Et la troisième rencontre, donc c'est Olivier Loube. Alors là, c'était génial.
Ouais, c'est extra.
Il est enseignant en prépa à Saint-Sernin. Il est historien. Il habite ici et il venait de sortir un livre sur le festival de Cannes qui n'a pas eu lieu. Le festival de Cannes de 1939 qui aurait dû être le premier. Et en fait, le premier, ça a été 1946 puisque la guerre a été déclarée la veille de l'ouverture. Donc il a fait un livre, lui, qui est la croisée de l'histoire du cinéma
et de la grande histoire.
Et fait. Oui, oui. Enfin,
l'histoire de la politique de la France, des pays autour. Et
Donc il a sorti ça chez Armand Collin, c'est pas son premier livre, c'est le biographe de Jean Zay. Et donc il est venu parler du livre, voilà, ça c'était...
Et on a eu, pareil, une grosse trentaine de personnes. On avait des gens debout, on n'avait pas assez de chaises.
On s'était associé avec le caviste en face, donc après la rencontre, il y avait une dégustation... avec des repas,
un buffet.
Livre et vin, ça va très bien ensemble.
Hein. C'est ça.
Et d'ailleurs, voilà, à la rentrée, on va avoir une nouvelle rencontre sur. Donc, c'est un trio d'enseignants passionnés de vin qui ont monté une association et donc qui viennent de faire un livre sur l'art du vin, les arts et les métiers de la vigne et du vin. Donc, on va les recevoir. Pareil, en association avec le caviste, ça sera suivi d'une dégustation. Voilà, vraiment, on est en plein dans le...
On lit et on boit, c'est bien.
Donc, on va avoir aussi d'autres écrivains. Didier Goupil, qui est un écrivain toulousain, que j'ai rencontré pour le marathon. Et quand on prépare une rencontre, on lit, bien sûr, les ouvrages. Et on a vraiment adhéré, en fait, à ces...
Ça a été une super découverte. Ouais. Oui, toutes les deux, on a lu pas les mêmes livres. On a toutes les deux aimé. Il a un style très affirmé, très agréable à lire. C'est...
Didier Goupil, alors on va rappeler son dernier titre.
C'est alors, Journal d'un caméléon.
Journal d'un caméléon qui va sortir en poche. Et donc il sort un nouveau pour la rentrée littéraire fin août.
Ouais, dont j'ai pas le titre en tête, mais qui est la suite de Femmes du Monde.
Ouais.
Donc pour le moment, le Journal d'un caméléon, c'est aux éditions du Serpent à plumes. C'est ça que tu cherchais.
Ouais. Je cherchais la maison d'édition.
Ouais. Et il ressort au Serpent. Je sais pas si
c'est au Serpent à plumes aussi à la rentrée, mais j'ai pas le titre.
Son prochain ouvrage. Et donc voilà, on la croise au marathon, on était vraiment enthousiastes. On lui dit vous pourriez venir. Ah oui, je viens.
Et puis en plus, Didier Goupil, il a un public quand même sur Toulouse déjà, puisque c'est un auteur toulousain.
Oui. Ouais.
Et du coup, vous avez les dates de ces rencontres ?
Alors Didier Goupil, c'est le 14 octobre. Ah bon, on va faire tout le calendrier.
Bah déjà ce soir.
Oui.
Ce soir, on organise, alors sur une idée un peu jetée comme ça de Karine, on organise une petite soirée autour, en fait, avec notre clientèle autour de. Le thème, c'est lecture d'été. Alors, c'est pas fermé, on va dire, c'est amener son coup de cœur du moment ou un coup de cœur plus ancien pour proposer des lectures aux gens qui seront là. Et on fait un petit pique-nique façon auberge espagnole où chacun amène un petit quelque chose qu'il a préparé ou acheté et on partage. Et ça a suscité un enthousiasme incroyable.
Ah oui.
On a plus de 25 personnes inscrites. On espère pouvoir tous les accueillir.
Ah, super. Bon, après, du coup, c'est vrai que c'est un événement qui aura lieu à nouveau, parce que comme l'émission n'est pas en direct, les gens qui vont l'écouter ne pourront pas venir ce soir.
Ah,
j'espère qu'on pourra peut-être refaire sur d'autres thèmes, en fait, d'autres thèmes de lecture.
Le partage de
peut-être
de
pour la rentrée livres, littéraire, peut-être.
Oui. On pourra il faut qu'il y ait quelque chose. On avait lancé un club de lecteurs, on n'a eu personne. Donc.
Je pense que c'est le fait qu'il y a à manger.
Ouais,
les gens,
à
ça
manger
les attire.
À boire.
À manger, ça... à boire des livres, ouais. Ça marche bien.
Ouais. Bah, c'est parce peut-être qu'en fait, la formule les gens, ils sont intimidés. Ouais. Ils nous disent. Qu'est-ce que je vais présenter comme livre? J'ai pas toujours des lectures au top. En fait, voilà, ils sont. Mais comme beaucoup de personnes, ils sont impressionnés. Enfin,
ils se jugent. Voilà, oui, ouais, oui, il y a une question de jugement
par
rapport à qu'est-ce qu'on lit.
Par rapport au livre, d'être effectivement impressionné par. Alors que voilà, on veut vraiment faire quelque chose d'ouvert et puis effectivement, si on n'a pas de lecture à présenter, on peut écouter et s'inspirer. S'inspirer de ce que les autres
ont. Donc là, ce soir, un partage sur les lectures de l'été. Ensuite, du coup, la rencontre sur les arts et les métiers de la vigne et du vin.
Alors
ça, ce sera au mois de septembre, au moment des vendanges.
C'est octobre, je crois.
C'est le vendredi 7 octobre à 19h.
D'accord.
Et Didier Goupil, on le reçoit le vendredi 14 octobre à 19h. On va aussi avoir une conteuse qui va venir, donc mi-septembre, le vendredi 16 septembre, pareil à 19h, un conte pour adultes, un conte sur le monde paysan. Donc, on va travailler, on va contacter les AMAP locales, parce que je pense que ça peut les intéresser. Donc, cette même conteuse viendra le lendemain matin pour un conte pour les tout-petits, pour les 8 mois, 3 ans. Voilà. Ensuite, le 24 septembre, en après-midi, le samedi, à 15h, donc Claire Lebourg, qui est une... auteur jeunesse qui est toulousaine, viendra animer un atelier autour d'un de ses livres. Donc voilà, elle propose des activités aux enfants, petit groupe d'une dizaine.
C'est une illustratrice toulousaine qui avait qui s'était battue pour auto-produire son premier livre qui s'appelle La retraite de Nénette, qui est d'une grande qualité pour un livre auto-édité par un auteur du coin. Et en fait, elle a réussi à trouver un éditeur et maintenant elle édite à l'école des loisirs.
D'accord.
Voilà.
Et du coup, on n'a pas parlé de vos postes dans la librairie, mais là, comme il arrive le moment où on va se promener entre les rayons et qu'on va parler livres et que vous allez nous conseiller les livres que vous avez aimés, vous pouvez nous parler d'auteurs que vous aimez en particulier, d'un travail éditorial que vous aimez aussi. Et du coup, quels sont vos rôles ici? Vous êtes attachée à des rayons en particulier ou vous faites un peu tout, toutes les deux?
Les deux en fait, effectivement, on essaye quand même d'être polyvalente pour pouvoir répondre quand l'une ou l'autre n'est pas là, mais oui, il y a quand même des pôles d'attraction, on va dire qu'on se partage assez bien la littérature, le polar, et moi je suis spécialisée en jeunesse. Et du coup, j'ai récupéré aussi, parce que c'est vrai que le travail texte-image m'intéresse beaucoup, donc j'ai récupéré la BD, le manga. Et donc voilà, on va dire que je suis un peu plus spécialisée sur ces deux pôles-là et la littérature. Voilà. Et Karine.
Donc moi, c'est plutôt les sciences humaines. Enfin, bien sûr, voilà, on le redit, on partage la littérature et le polar. Et après, sciences humaines, histoire, économie, sociaux. Voilà, tout ça, ça m'intéresse énormément. Donc c'est des lectures. Donc voilà, c'est plutôt.
C'est comme ça que vous partagez du coup les lectures. Et si vous voulez bien, on va se lever. Et puis on va faire un petit tour et à vous de vous arrêter quand vous avez envie. Bon, je vois quand même que sur les tables, alors déjà vous avez un très beau mobilier quand même, il faut le préciser. Et puis sur les tables, vous avez des coups de cœur aussi.
Oui, bien sûr. Donc, des coups de cœur sur des nouveautés et sur des choses qui sont pas nouvelles, hein, qu'on met aussi en avant, aussi bien sur les poches que le grand format.
S'il y a deux livres chacune là dont vous avez envie de nous parler, ce serait lesquels? Toi, Karine?
Alors moi, j'ai mis un double. Il y a un double cœur. Là, c'est mon énorme coup de cœur du printemps. C'est Joseph Andras de Nos frères blessés. C'est cet écrivain qui s'est payé le luxe de refuser le concours du premier roman. Apparemment, c'est bien. Il est sur une démarche. Purement littéraire. Hein, donc voilà, c'est un livre, coup de cœur et coup de poing, je dirais.
C'est aux éditions Actes Sud.
Oui, c'est chez Actes Sud, voilà. C'est l'histoire vraie, c'est l'histoire de Fernand Yveton qui a été condamné à mort pendant la guerre d'Algérie par les autorités françaises et qui a été guillotiné. Et je trouve qu'il met son style au service de l'histoire et non pas l'inverse. Et donc, voilà, c'est traité de manière intense. C'est une histoire qui méritait de ressortir. Ça pose plein de questions sur ce qu'on vit maintenant. Donc voilà, c'est vraiment... Enfin, il y avait très très longtemps que je n'avais pas lu quelque chose d'aussi fort et qui m'avait autant...
De nos frères blessés, de Joseph Andras aux éditions Actes Sud. Et c'est une nouveauté, ça?
C'est du printemps, c'est sorti au mois de mai, mai 2016.
D'accord.
Voilà. Après...
Toujours confondu, hein?
Hein?
Toujours confondu pour les coups de cœur.
Oui. On va peut-être... je vais parler de GC. juste mettre en avant un éditeur plutôt. Les éditions Fakir. Voilà. Je suis allée voir Merci Patron et je me dis, mais bon sang!
Super film!
Voilà. Et donc, on les a tous pris. Tout ce qui est disponible encore chez Fakir. Donc là, il en manque puisqu'on les a vendus et on est en train de les recommander. Donc, ils ont le mérite d'être incisifs, des textes courts mais très pertinents sur l'économie du football, l'histoire de ce travailleur aussi qui est mort. Voilà, donc c'est engagé, mais c'est très bien fait. Et vraiment, ça mérite une mise en avant, et notamment ce joli livre sur les yézidis que je ne connaissais pas. Et...
Donc ça, voilà. C'est quoi comme livre? C'est les Yékois, donc aux éditions Fakir.
Les Yézides du Sinjar à la Picardie.
D'accord.
C'est une communauté qui vit grosso modo vers le Kurdistan et qui a été chassée par... par Daesh, ils sont complètement méconnus, ils sont réfugiés en France, mais voilà. Ils sont intéressants, ils ont une religion à eux très, très particulière, ils vénèrent le Pan, mais voilà, c'est tout ce que j'aime, c'est découvrir, apprendre, voilà, connaître leur histoire, leur parcours, et puis ils sont soutenus par les gens de Fakir, donc c'est...
Et Fakir, du coup, voilà, on rappelle, c'est ce journal du nord de la France. Ils sont basés où?
Oui, Amiens. Il est Picard, François Ruffin.
Voilà, ils sont à Amiens.
Voilà, on peut s'abonner, c'est une bonne petite feuille.
Et puis, du coup, ils ont une petite maison d'édition avec quelques titres, effectivement, engagés. Ouais. Et je vois que juste à côté, sur l'étagère, il y a écrit « Certains films sont d'abord des livres, voici ceux qui sont programmés actuellement à l'Utopia ».
Voilà, c'est en cours de remplissage. Voilà, je prends chaque mois le programme Utopia et je relève tous les films qui sont adaptés de livres et je commande ces livres. Donc, j'ai toujours un assortiment de ce qui vient d'être adapté au cinéma.
Alors, Stéphanie, deux coups de cœur?
Oui, donc moi je vais me concentrer un peu sur l'image.
Sur tes rayons,
et
du coup.
Et voilà, exactement. Donc je vais, on va dire, c'est pas du tout une nouveauté, mon gros coup de cœur en BD s'appelle La fille maudite du capitaine pirate de Jérémy Bastien, qui est aux éditions de La Cerise sur le gâteau. C'est une petite maison d'édition.
Bordelaise.
Et du coup, je me permets d'en parler parce que le tome 2 sort en août, il me tarde qu'il arrive. C'est une magnifique BD, déjà qui est un très bel objet, avec une belle couverture toute crème et sépia. Donc c'est du noir et blanc, c'est du crayonné, ça ressemble à plein de choses et à rien de connu. On dirait du Gustave Doré, on dirait du Alice au Pays des Merveilles. C'est une super histoire d'aventure d'une jeune fille qui croit en fait que son père l'a abandonné parce que c'est un pirate renommé et qu'il est parti vivre son aventure, et elle essaye de le retrouver. Et c'est une histoire un peu surréaliste, un peu folle, hein, où on part à l'aventure, on est sous l'eau, sur l'eau, dans des bateaux. C'est génial. Ouais. C'est très beau et je pense que c'était sa première BD. Il a un talent fou et je pense que c'est un auteur BD et illustrateur à suivre.
Avec la suite, du coup, en août.
Avec la suite qui arrive en août, oui. Et alors, en jeunesse, je pense que je vais présenter un de mes gros coups de cœur qui est plus récent mais qui n'est pas non plus complètement une nouveauté. Mais par contre, c'est une petite maison d'édition qui vient de se créer, qui s'appelle Little Urban, qui fait des choses très très sympas pour la jeunesse. Et là, celui-ci s'appelle À la recherche de la carotte bleue, de Sébastien Téléchi.
Je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Donc, c'est un grand format album.
Voilà, le genre de livre qu'on a des difficultés quand même à rentrer dans la bibliothèque, mais qu'on adore quand même, parce que quand ça sort des formats...
Oui, mais j'avais un ancien collègue qui disait la littérature n'est pas faite pour s'adapter au mobilier, en fait. C'est le contraire, le mobilier doit s'adapter à la littérature.
Tout à fait.
Et donc, en fait, c'est une histoire, c'est une grande aventure, en fait, de lapins, d'un peuple lapin qui ont découvert une carotte bleue qu'ils croient magique. Donc, c'est un peu une parabole sur le Graal, la quête du Graal. Et qui, en fait, de page en page, cherche cette carotte en remontant le cours de l'histoire. Donc, on part de la préhistoire, on passe par l'Égypte, le Moyen-Âge, les pirates, le monde moderne, la révolution industrielle. Et en fait, c'est à la fois une histoire, une aventure et un cherche-et-trouve. Parce que chaque double page, en fait, sur la page de gauche, on a du texte. Et sur la page de droite, on a une grande image foisonnante, très belle. En plus, les illustrations sont magnifiques. Où on doit chercher cette petite carotte bleue magique. Donc c'est à la fois un livre histoire et un livre jeu. Et c'est vraiment une grande réussite.
Il y a des pleines pages d'images aussi.
C'est un coup de cœur que je mets en avant depuis qu'il est sorti et je l'ai déjà vendu plein de fois et ça plaît beaucoup.
Et donc ça, c'est À la recherche de la carotte bleue de Sébastien Téléchi chez Little Urban.
C'est le genre d'album qu'on peut offrir en cadeau à tout enfant confondu qui fera toujours plaisir.
Ah donc du coup nous sommes face à deux libraires frustrés qui ont envie de conseiller d'autres livres. Donc du coup, allez, deux petits derniers conseils rapides, Stéphanie, le livre du coup que tu sauverais si jamais tout brûle.
Voilà, c'est la formule consacrée, il ne faut pas brûler les livres, mais on va dire s'il y en a un à sauver, pour moi en tout cas, c'est Le Maître et Marguerite de Mikhaïl Bulgakov. C'est on va dire un roman de tout. Quel que soit ce qu'on cherche, ça y est dedans. Si on veut du fantastique, il y a les personnages sont géniaux. Il y a une histoire d'amour sublime. Il y a le diable, il y a un chat géant, il y a Ponce Pilate et Jésus, il y a toute l'intelligentsia de Moscou des années 30. On fait un voyage, on rencontre des personnages incroyables et c'est un style foisonnant. Vraiment qui ressemble au classique russe, mais beaucoup plus moderne et beaucoup plus peut-être accessible. Et il faut lire Le Maître et Marguerite. C'est le classique russe à sauver, en fait.
D'accord. Et ça, en plus, on peut le trouver en poche.
Oui, il est en poche aux éditions Pavillon Poche, chez Robert Laffont, avec une magnifique couverture, avec un gros matou couronné qui donne envie d'aller ouvrir la première page.
Et alors, Karine, un dernier conseil pour si jamais il y a la montée des eaux, il y a un livre à sauver de la noyade.
Non, je ne vais pas procéder comme ça, parce qu'il y en aurait trop. Je ne vais pas y arriver, je ne vais pas vouloir faire des choix. Non, juste, du coup, ma dernière découverte.
Allez.
Voilà, comme ça. Alors, c'est Ian Levison, un Écossais d'origine qui vit aux États-Unis. Donc, tribulation d'un précaire sur sa vie de précaire aux États-Unis. Édifiant sur le système économique et le marché du travail, beaucoup d'humour, c'est bien écrit et il y a un fond, il y a un petit fond social qui n'est pas inintéressant. Et juste les éditions Bruno Doucet pour ceux qui aiment bien la poésie, voilà. Et notamment le magnifique Les obus joués à pigeon vol, voilà, qui est où Raphaël Jérusalemi évoque les derniers jours dans les tranchées d'Apollinaire, c'est magnifique.
On rappelle les titres et les auteurs de ces deux titres.
Alors, donc Ian Levison, Tribulation d'un précaire et Un petit boulot. Donc là, qui est un polar social qui va être adapté au cinéma.
Aux éditions.
Liana Levy, voilà. Ensuite, les éditions Bruno Doucet en général pour la poésie. Et en particulier, Les obus joués à pigeon vol de Raphaël Jérusalemi sur Apollinaire.
Bon, on rappelle maintenant les horaires de la librairie. Donc là, c'est les vacances. Vous allez fermer bientôt.
On va fermer du 1er au 15 août. Voilà, deux petites semaines, un petit break.
On vous retrouve le 16.
Mardi 16, voilà. Nos horaires, c'est du mardi au vendredi, 10h-13h et 14h-19h. Le samedi, 10h-19h, non-stop. Et on est ouvert le lundi après-midi. Donc ça, c'est très très bien, de 15h à 19h. Voilà.
On va se quitter sur un dernier morceau de musique.
Chose this for me.